Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous en sommes dans l'Apocalypse. Un livre très, très passionnant. Et ce livre très passionnant, eh bien, nous devons apprendre à l'étudier. C'est vrai que c'est tellement riche.
Moi,
plus je passe du temps à étudier l'Apocalypse, plus je trouve que c'est riche et plus je trouve que waouh, il y a tellement, tellement de choses. Mais c'est intéressant parce que Dieu nous donne son intelligence. Pour comprendre des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas comprendre ces choses. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent même pas ces choses. Pourtant, Dieu les a écrites dans sa parole. Donc nous devons les étudier et les comprendre. Et elles sont passionnantes. L'Apocalypse n'a rien à voir avec un livre de catastrophes. Mais c'est un livre de victoire. C'est un livre de gloire. C'est un livre qui nous montre où nous allons passer l'éternité, comment ça va se passer. C'est un livre qui nous montre comment Dieu va récupérer la gestion de sa propriété. Où nous allons régner avec lui. Et c'est un livre aussi qui nous montre comment Dieu va recréer toute la surface de sa propriété.
Effacer
toute trace du péché sur cette terre. Et là, nous régnerons avec lui pour l'éternité.
Ah,
on a du mal à réaliser ces choses. Frères et sœurs, il faut passer du temps par rapport à ça. Afin de s'en imprégner. Et vous savez, si Dieu nous donne ça dans sa parole, c'est pour nous montrer l'objectif, la raison d'être de notre vie sur la terre. Profite des choses de cette terre. Parce que vous savez, il y a vraiment deux travers. Il y a les gens qui soit sont ultra religieux.
Ils ne
savent jamais profiter de quoi que ce soit. Ils sont tout le temps soi-disant dans la prière et dans les choses spirituelles. Et ils ne savent jamais se faire plaisir ou profiter de certaines choses que Dieu a mises à notre disposition. Et ça, c'est vraiment dommage, c'est complètement religieux. Et puis de l'autre côté, il y a l'autre excès. Les chrétiens qui sont là, ils sont sauvés. Gloire à Dieu. Ils vont à l'église tous les dimanches. Et le reste, ils passent leur temps à penser aux choses de cette terre. Plus d'argent, plus de choses. Plus de ceci, plus de cela. Mais leur relation avec Dieu est vraiment pauvre.
Mais
c'est dommage. Tu peux parfaitement t'épanouir dans tous les domaines. Mais il faut que tu apprennes. Mais ça prend du temps à avoir de l'équilibre dans ce domaine-là. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. L'Apocalypse, ce merveilleux livre qui nous raconte l'histoire d'un royaume perdu qui est retrouvé. Et qui nous montre comment Dieu va faire pour tout récupérer et faire la vision originelle qu'il avait avec Adam
et Ève.
Donc nous avons étudié un certain nombre de choses. Je rappelle le premier chapitre, nous avions vu toutes les salutations, comment Jean reçoit la vision, il voit Jésus glorifié. Ensuite, chapitre 2, chapitre 3, c'est le message aux sept églises. Nous avons tout étudié de A jusqu'à Z, en tout cas au maximum. Puis d'un seul coup, Dieu va l'amener, le Seigneur va amener Jean dans une autre dimension. La première vision s'estompe, disparaît. Jean avait vu Jésus, Jésus lui a parlé, lui a donné le message aux sept églises. Et Jésus va disparaître. Et Jean, un ange va lui dire, monte plus haut. Et d'un seul coup, il va se retrouver dans une autre vision. Les vrais prophètes de Dieu racontent ce genre d'expérience. Des fois, quand ils ont plusieurs visions de suite, ils ont une première vision, puis d'un seul coup, il y a une autre vision. Vous trouverez ça aussi, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel. Je vous rappelle qu'Ézéchiel, c'est le livre où il y a le plus d'explications. D'une façon pratique, comment l'onction de prophète fonctionne. Alors ensuite, Jean se retrouve au troisième ciel, devant le trône de Dieu. Et nous l'avons vu là, il a vraiment, au chapitre 4, une vision absolument fabuleuse. C'est vraiment extraordinaire. Il nous donne plein de détails, le trône, tout ce qu'il y a autour du trône. Nous avons vu les 24 vieillards. Nous avons vu les chérubins, les 4 chérubins. Tous les anges qui sont là. Et si on complète la vision avec d'autres textes, on sait qu'il y a la Jérusalem céleste. Et Jean nous donne vraiment une vision absolument fabuleuse. Donc nous avons étudié tout ce chapitre 4. Nous avons vu qui étaient ces chérubins, parce qu'on va les retrouver encore, parce qu'ils ont un rôle au niveau du trône de Dieu. Et puis, nous sommes arrivés au chapitre 5. Et là, on a vu que le chapitre 5, ça va être le déclenchement de la tribulation. Mais pour comprendre la tribulation, il faut avoir des fondations. D'abord, on remarque qu'à partir du chapitre 4, il n'y a plus l'Église sur la terre. Et là, évidemment, il y a cet événement qui s'est produit qui s'appelle l'enlèvement de l'Église. Donc pour comprendre, pour avoir les clés de la compréhension de la suite de l'Apocalypse, nous avons vu qu'il y a trois piliers, trois clés qui nous ouvrent des portes. La première clé, c'est bien sûr l'enlèvement. Cet événement sans précédent qui se produira, autant marqué par Dieu. Et nous savons que les morts en Christ vont ressusciter, donc ceux qui sont au troisième ciel vont ressusciter. Ensuite, nous avons vu que nous les vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Puis, tout le monde va rejoindre Christ dans les airs, parce que Christ revient la première fois pour son Église. Et il ne pose pas les pieds sur la terre. Et son Église va être réunie dans les airs avec lui. Et retour au troisième ciel. Et là, pendant sept ans, nous savons qu'il y a le tribunal de Christ. Deuxième fondation, deuxième pilier, deuxième clé. Ce tribunal de Christ n'est ni plus ni moins le tribunal de récompense. Je vous rappelle, votre salut est gratuit. Et votre récompense, vous allez devoir la gagner. Et de votre récompense, je vous rappelle, dépendra la position que vous aurez dans le royaume futur. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Et le règne de Dieu, Jésus qui règne, ça a deux facettes. La facette du millénium, où nous régnerons avec Jésus sur cette terre, juste après la tribulation, mais il y a aussi après le règne pour l'éternité. Donc il y a deux facettes du règne de Christ sur la terre, dans lesquelles nous participerons à un grade plus ou moins élevé. Je vous rappelle que la Bible nous dit clairement que notre corps qui sera ressuscité sera revêtu de la gloire de Dieu au moment du tribunal de Christ. C'est-à-dire que notre corps sera glorifié. Il y a le corps ressuscité et il y a le corps glorifié, récompensé. Et la Bible nous montre clairement que nous allons briller. Il y a un autre texte encore que j'ai trouvé dans Daniel 12 aussi, qui nous parle clairement de briller comme des étoiles. Et 1 Corinthiens 15 nous en parle aussi. C'est clair que nous allons avoir un éclat différent. Et directement, quand nous nous regarderons, eh bien, nous verrons si nous avons été très, très, très récompensés ou peu récompensés. Ceux qui auront été sauvés comme au travers du feu, on verra cela. Donc le salut est gratuit, mais la position que tu auras dans le royaume futur, dans le double règne de Christ, ça dépendra de ce que tu auras fait, de ce que le Seigneur t'aura demandé, la façon dont tu auras appliqué la parole dans ta vie et qu'est-ce que tu auras réalisé, accompli dans toute ta destinée. Pas la destinée ou la course d'un autre, ta destinée. Troisième fondation que nous avons vue qui est indispensable, clé de la connaissance, pour aller plus loin dans l'Apocalypse, c'est bien sûr la compréhension des 70 semaines d'année de
Daniel.
Et ça, c'est très important. Donc nous avons vu d'abord Daniel chapitre 2, la statue. Nous avons vu comment le Seigneur révèle à Daniel les quatre parties de la statue que le roi Nabuchodonosor avait vues. Donc les quatre empires qui vont se succéder. Les Babyloniens au 6e siècle avant Jésus, entre autres. Puis après les Mèdes et les Perses. Puis après les Grecs avec Alexandre le Grand. Puis après l'Empire romain qui va se diviser en deux, qui a deux jambes, la dernière partie. Et effectivement, l'Empire romain se divisera au travers des siècles, l'Empire de l'Est et l'Empire de l'Ouest.
Ah,
Steve, vraiment. Hein. Vraiment bravo, Steve.
Merci.
Et en fait, ça amène à avoir les 10 orteils, les sur les deux pieds, il y a 10 orteils. Et qui sont mélangés. Ils sont faits de fer et d'argile. Et vous savez, le fer et l'argile, ça ne s'associe pas ensemble. Et nous verrons que ça, c'est le symbole des 10 nations qui vont commencer à s'unir pendant la tribulation, qui émergeront de l'Empire romain. Et il va y avoir une nation qui va écraser toutes ces nations et qui va prendre le dessus, et il y aura un gouvernement mondial. Nous allons en parler, mais je vous dis, vous allez bien connaître l'Apocalypse après tous ces enseignements. Mais on
ne
peut pas foncer sur les histoires d'Antichrist, de la bête de 666, pardon. Parce que sinon, les gens ne comprennent rien. Et ils se focalisent sur ce qui n'est pas essentiel. Vous savez, l'Antichrist, pour moi, ce n'est pas l'essentiel dans l'Apocalypse.
Hein.
Le personnage central de l'Apocalypse, c'est Jésus. Et c'est comment il établit son règne.
Hein.
Comment il reprend la gestion de sa propriété. Comment il la nettoie. Comment il la recrée dans sa surface et comment il nous place dans cet environnement parfait. C'est ça qui nous intéresse. L'Antichrist, c'est juste un pion
Antichrist ni nk'agakoresho
qui va faire beaucoup de mal à toutes les nations.
Kazogirira n'abamahanga menshi.
Mais qui sera écrasé par Christ.
Ariko gasambugwe na Kristo mu kanya.
Et ce jour-là d'ailleurs nous serons dans l'armée du Seigneur.
Uyo munsi wibuke tuzaba turi mu ngabo z'Umwami.
Quand l'Antichrist va être écrasé.
Antichrist gihazohonya.
Donc l'Antichrist n'est pas le sujet principal de l'Apocalypse.
Urumva Antichrist siwe nyamukuru avugwa siwe mukuru bavuga ngaha muri iki gitabo.
C'est la restauration et l'instauration du royaume de Christ.
Ahubwe kivugwa cyane no gusubigwamo no gushinga imizi ku bwami bw'Imana.
C'est la gloire de Jésus et son règne.
Ni inganje y'umwami Yesu.
Avec nous, c'est ça.
Nubundi nahazwa bwiwe twe ari kumwe n'abera biwe.
C'est toujours ça que vous devez garder en tête.
Icyo nico mukwe kwama mufise mu mitwe muri ko murasoma
kimwe. Nous avons vu que dans Daniel 2, la petite pierre va faire tomber la statue.
Daniel kabiringwa kabiye gato karaza kagwisha igishushanyo.
Et en fait on sait que ça c'est quelque chose qui paraît insignifiant au départ.
Urabona ko ivyo bintu menga ni ibintu menga ntacho bivuze mu ntango.
Et c'est Jésus qui a été méprisé qui est venu comme une faible plante.
Ako kabuye kaje gakengerewe ni Yesu yaje
qui va mourir sur une croix.
Arapfa ku musaraba.
Beaucoup vont se moquer.
Benshi baramutwenga.
Et cette petite pierre.
Ako kabuye gatoya.
Jésus le rocher.
Yesu urutare.
D'un seul coup c'est elle qui va écraser les systèmes de ce monde.
Mukanya gato ahonyanga ivyise.
La statue étant le symbole des systèmes de ce monde.
Igishushanyo ni ingene sipanzwe.
Les systèmes politiques.
Ingene politiki itunganijwe.
Les systèmes sociaux.
Ingene imibano itunganijwe.
Et les systèmes économiques.
Ingene ubutunzi butunganijwe.
Aujourd'hui, l'injustice est partout.
Uyu munsi akarenganyo kari hose.
Les gens se battent pour le pouvoir.
Abantu baragwana kubw'ubutegetsi.
Les économies montent et descendent et il y a plein d'injustices sociales.
Ubutunzi buraduga bukamanuka hari akarenganyo kenshi mu mibano.
C'est normal.
Nibisanzwe.
Le pire des gestionnaires.
Ubitunganya ivyo byose.
Gère les systèmes de ce monde.
Ni sekibi ni watunganya ivyo byose.
Donc maintenant vous comprenez pourquoi. Mais un jour ça s'arrêtera.
Ariko hari umunsi bizohagarara.
Et nous le verrons. Et nous y participerons. Ça, c'est l'Apocalypse. Ça, c'est l'Apocalypse. Et donc, Daniel, un peu plus tard, va recevoir une vision. Au chapitre 9. Et d'un seul coup, il reçoit la vision de 70 semaines d'années,
490 ans.
Et dans ces 70 semaines d'années, il y a trois morceaux. Il y a une première partie. C'est sept semaines. Et en fait, ça correspond à toute la restauration de Jérusalem. Et après, il y a 62 semaines d'années. Et clairement, dans l'explication que l'ange lui donne, il lui dit 7 plus 62, ça fait 69
semaines.
Et là, le prince, le Messie, va être retranché. Et ça, c'est la croix. Et il reste juste 7 ans à s'accomplir. Entre la 69e et la 70e semaine d'année, donc les 7 ans avant la fin, Daniel ne voit pas qu'il va y avoir le temps de l'Église. Ces 7 dernières années ne se passeront pas conjointement avec, tout de suite avec les 69 autres. Il y a une coupure. Et ça, c'est le mystère de l'Église qui n'était pas révélé à Daniel. Et c'est pour ça que Daniel, lui, pour lui, il pensait que tout allait s'accomplir comme ça, d'un seul trait. Mais nous avons plus de révélations. Parce que quand le Messie va être retranché, il va y avoir ce qu'on appelle le temps, la dispensation du mystère, le temps de l'Église, qui va s'ouvrir. Et c'est là où nous sommes. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Et tant que, à partir du moment où le Messie était retranché, on a vu l'horloge prophétique pour Israël s'arrête. Dieu enlève ses yeux d'Israël pour les mettre vers des gens qui vont le servir. qui vont recevoir Jésus comme sauveur personnel. Jésus meurt et ressuscite et il ouvre la porte au royaume de Dieu. Par quoi? La nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Personne ne peut entrer ou ne voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau.
Et c'est
exactement le temps où nous sommes actuellement. Et nous avons vu que Jésus, quand il va revenir, le premier retour de Jésus, pour enlever son église, alors là, c'est Apocalypse chapitre 5 qui va se produire. Les 7 ans dont l'Ancien Testament parle, entre autres dans les prophéties de Daniel, mais aussi dans Zacharie, et puis à droite à gauche dans différents prophètes, ça va s'accomplir. Et là, c'est des révélations terribles. Ça s'appelle la tribulation. Dans le Nouveau Testament, nous avons encore plus d'explications sur ce qui va se passer pendant ces 7 ans de tribulation. Et je vous rappelle que Jésus enlève son église, enlève son ambassade. Parce que là, il va y avoir déclaration de la guerre contre le monde. Dieu a ouvert sa grâce. N'importe qui de n'importe quelle nation qui n'avait absolument aucun droit aux promesses a maintenant le droit s'il accepte Jésus, se repent de ses péchés et accepte Jésus. Mais il y a un temps où Dieu dira maintenant ça suffit, il est temps pour moi de récupérer la gestion et il est temps maintenant de vous montrer qui je suis aussi. Je suis un Dieu d'amour, vous n'avez pas voulu croire en moi, vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez insulté, vous m'avez méprisé, vous avez refusé de me servir. Je vous ai envoyé des serviteurs. Vous les avez persécutés. Vous vous êtes moqué d'eux. Vous avez tout fait pour les empêcher de répandre l'évangile. Maintenant, je vais vous montrer aussi que je suis un Dieu de jugement. C'est là où d'un seul coup, nous allons découvrir dans ces passages suivants combien Dieu est aussi un Dieu de jugement. Dieu est un Dieu de grâce. Et vous savez, Dieu aussi a une certaine patience qui s'arrête. Dieu ouvre les portes aujourd'hui même au pire des pécheurs pour être se repentir et l'accepter comme sauveur personnel. Mais ceux qui refusent n'auront pas une autre chance. La Bible nous dit clairement qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après vient le jugement. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un n'accepte pas Jésus, c'est fini pour lui. Alors maintenant que nous avons remis les choses en ordre et que nous comprenons qu'il fallait des fondations avant de continuer, eh bien nous allons voir qu'est-ce qui va amener, en fait qu'est-ce qui va déclencher la tribulation. Parce que ça c'est quelque chose qui est important. La Bible va nous montrer dans Apocalypse chapitre 5 un certain nombre de choses qui vont nous éclairer. Et vous voyez, tout ce que nous allons lire là, nous le verrons nous-mêmes. Nous serons au ciel à ce moment-là. Tout ce que nous allons lire ici, on en sera témoin, frères et sœurs. On le verra. Parce qu'à cette époque-là, nous serons au ciel avec notre corps ressuscité et glorifié, c'est-à-dire récompensé. Donc tout ce qui va se passer dans le ciel et sur la terre qui nous est décrit ici, nous allons le vivre et le voir. On va lire donc chapitre 5, verset 1 et nous allons découvrir un certain nombre de choses. On va lire donc tout le chapitre. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Était écrit dedans et en, de, Il était écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des anciens, pas des vieillards, la traduction vraiment je n'aime pas celle-là, me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, on va en parler ce soir, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, c'est-à-dire les chérubins, je vous le rappelle, nous l'avons étudié au chapitre 4, et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et regardez bien, et ils régneront où ça? Sur la terre. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Verset 12, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, j'ai entendu qu'il disait, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants, les chérubins, disaient, « Amen !» Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Ici, nous avons tout un chapitre dans une scène céleste.
Et cette
scène céleste va être l'ordonnance divine de du déclenchement de la tribulation sur la terre. Dans ce livre qui est scellé de 7 sceaux, il y a les jugements de Dieu sur la terre. Ces jugements vont venir sur la terre et c'est prévu, planifié par Dieu. Donc c'est quelque chose que Dieu nous révèle, comment il va faire. N'ayant plus l'Église sur la terre, uniquement les inconvertis qui sont là, et on reviendra à l'attitude des inconvertis juste après l'enlèvement, Dieu va ordonner un certain nombre de malheurs. C'est lui, là ce sont ces anges qui vont venir frapper la terre. On va vraiment parler de tout cela pendant ce chapitre et au chapitre suivant, parce qu'il y a un tel mélange dans la tête des chrétiens qui souvent ne discernent pas. Quand il y a quelque chose qui se produit sur la terre, entre si c'est Dieu qui fait les choses, si ce sont des puissances sataniques, ou si ce sont simplement des circonstances. Et c'est très important que vous ayez des éclairages sur ce sujet. Parce que beaucoup de gens ont tout, mélangent tout, attribuent à Dieu des choses qu'il ne fait même pas, accusent Dieu alors qu'il n'a rien fait, et les gens sont complètement confus. Il y a eu des jugements de de Dieu sur la terre, comme nous le verrons.
Il
y a le temps de la grâce.
Et
il y aura encore des jugements de Dieu sur la terre. Et quand je dis jugement de Dieu sur la terre, là je dis que Dieu en est l'auteur et l'acteur. Là, nous sommes dans une période où effectivement, Dieu va être l'auteur et l'acteur de ses jugements. Donc c'est Dieu qui est l'initiateur, qui est l'auteur.
Il
les a écrits d'avance. Et les hostilités vont commencer lorsque Jésus va ouvrir ce livre et les sept sceaux. D'abord, ce livre est scellé de sept sceaux. Alors en fait, les sceaux, c'est quoi? C'est le symbole de l'authenticité et de l'approbation de quelqu'un. Concernant donc ce qu'il écrit dans un document. Quand vous scellez un document,
ça prouve
son authenticité d'abord, mais ça prouve aussi que c'est bien lui, et ça dit vraiment que c'est quelque chose qu'il approuve. Donc dans ce livre, c'est étonnant parce que nous savons déjà ce qu'il y a dedans. Donc ce n'est pas un mystère. Parce qu'un mystère, rappelez-vous que c'est une connaissance cachée. Le livre où il y a les sept sceaux des jugements de Dieu pour la tribulation en vue de récupérer la gestion de sa propriété, ce n'est pas un mystère. La seule chose qui est un mystère, c'est la date, le jour donc, et l'heure. Ça, c'est un mystère. Parce qu'en fait, ça va commencer par justement le mystère de l'enlèvement. De la date de l'enlèvement. Mais ce qui va se passer après, pendant la tribulation, ce n'est pas un mystère. Nous en avons tous les détails ici. Par contre, le déclenchement, c'est-à-dire quand est-ce que ça va être initié, par qui ça va être initié, on voit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va être seulement l'acteur de l'initiative de ces jugements. À partir du verset 2, d'abord on voit, Jean dit, je vois un ange puissant qui en fait pose une question, qui est digne d'ouvrir ce livre? Qui est digne d'en rompre les sceaux? C'est une question qui est posée à l'univers. Évidemment, personne, sauf celui qui a ouvert les portes du royaume. Personne n'est digne de dire, maintenant j'ai le droit de récupérer ma propriété. Et pour cela, je vais utiliser la force. Vous savez, parfois, vous êtes obligé, pour récupérer ce qui vous appartient, d'utiliser la force. La force légale. Et là, le Seigneur va utiliser la force légale. Il va utiliser des jugements. Ce n'est ma propriété. Maintenant, ça suffit. Et je vais utiliser la force. Je vais envoyer ma puissance. Je vais aller juger ces petits hommes-là qui m'ont craché à la figure, qui ont refusé ma grâce. Nous verrons qu'il y a des gens qui vont se repentir. Et Dieu est assez bon pour les accepter. On verra qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont se convertir dans la tribulation. Mais on verra par quoi ils vont passer. Combien ça va être dur pour eux. Les persécutions. les horreurs que ces inconvertis vont faire à ces gens qui vont se donner à Christ. Combien ils vont être poursuivis pour ceux qui auront osé avouer qu'ils sont chrétiens. Donc Jésus va être le seul. Verset 5, il est dit, et l'un des anciens me dit. Alors vous voyez, il y a des dialogues. Les anciens, les 24 qui parlent, un des anciens. Un des anciens qui parle à Jean. Et dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Alors évidemment, le lion, nous savons, que c'est le roi des animaux. C'est le symbole de la royauté. Vous vous rappelez que les chérubins ont quatre faces qui correspondent aux quatre facettes de la révélation de Dieu le Fils dans la personne de Jésus dans les évangiles. Nous l'avons étudié ensemble. Et rappelez-vous que les chérubins ont une face de lion. Et ça représentait la royauté de Jésus. Et nous avons vu que c'est dans Matthieu, où Jésus est présenté comme le roi des Juifs. Et le lion de la tribu de Judas, évidemment, ça fait toujours penser à ce que Jacob a prophétisé sur Judas dans Genèse
49.
Au chapitre 49 de Genèse, nous allons voir
Jacob
qui va bénir prophétiquement ses fils d'une façon particulière avec un don, ce qu'on appelle spécial de foi. Il est dit au verset 1, Jacob assembla ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les jours à venir. Si vous avez un petit parallèle, normalement vous avez dans Hébreux 11, verset 21, qu'on va afficher. Et après nous allons revenir à Genèse 49. Il est dit, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph.
Ngo ukwizera niko kwatumye Yakobo aho yagira cikane ahezagira abana ba Yosefu bombi.
La bénédiction prophétique de Jacob sur ses fils.
Ubuvugishwa bwa Yakobo ku bahungu biwe
est une bénédiction faite par la foi mais pas par une foi générale dans la parole de Dieu.
Ni novuga ko ari umugisha uhawe biciye mu kwizera mugaba pana ukwizera rusangi mu ijambo ry'Imana.
Mais c'est ce qu'on appelle le don de foi spécial.
Ni kimwe twita ingabire y'ukwizera kudasanzwe.
C'est un don du Saint-Esprit.
Ingabire iva kuri mpwemu yera.
Quand le Saint-Esprit vient sur une personne.
Iyo mpwemu yera manutse ku muntu.
Et que Dieu lui infuse sa foi.
Imana ikamuha ukwizera kwayo.
Ce que Jacob va dire ici sur tous ses fils.
Ibi Yakobo yavuze ku bahungu biwe bose.
Ce n'était pas simplement des bonnes paroles, des jolies paroles de bénédiction.
Ni yari amajambo meza gusa y'umugisha.
En disant venez là mes enfants. Je vais poser mes mains sur vous et je vais proclamer que vous serez ceci ou cela. Et remarquez bien qu'au verset 1 de Genèse 49, Jacob leur dit clairement, je vais vous annoncer de ce qui va se passer dans l'avenir. Et
ce
n'est pas de lui-même qu'il a dit ces choses. Mais il a prophétisé d'une façon surnaturelle. Avec ce qu'on appelle les paroles de sagesse, c'est-à-dire des révélations sur le futur. Tout en étant utilisé par le Saint-Esprit pour proclamer des choses sur ses enfants. N'essayez pas de faire pareil. Sinon, vous allez faire ça dans la chair. Vous pouvez proclamer de bonnes paroles sur vos enfants, dans la prière ou même sur eux d'une manière générale. Vous n'essayez pas de dire, attendez, maintenant même je vais vous donner tout ce qui va se passer dans votre vie. Là, c'était surnaturel. C'était une bénédiction prophétique initiée par le Saint-Esprit. Et il y avait plusieurs dons du Saint-Esprit qui étaient en action ici. Et Jacob va être complètement envahi par la présence de Dieu. Et il va dire des choses absolument incroyables. Nous allons lire au verset 8. Et c'est très intéressant ce qu'il va prononcer sur Judas. Nous allons lire le verset 9. Verset 8 jusqu'au verset 10. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Bon, ça... Il prononce un certain nombre de choses, mais il va aller beaucoup plus loin dans la bénédiction sur
Judas.
Et là, il va dire, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Verset 10. Là, ça va être très intéressant. Là, il y a vraiment quelque chose qui va aller jusque, je dirais, jusque dans l'éternité. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, regardez bien, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, on va voir ce que c'est, et que les peuples lui obéissent.
Kumurongo w'icyenda ngo Yuda ni kibunda cy'intambwe uraduze mwana wanje uvuye mu ruhigi arunamye abunda nk'intambwe mbere nk'intambwe y'ingore ninde yohangara kuyubura icumu ry'ubugabe ku murongo w'icumi ntirizova kuri Yuda icumu ry'ubugabe ntirizova kuri Yuda inkoni yo kuganza ntizova hagati y'ibirenge byiwe nyene byo ataraza canke Shiloh ataraza uwo niwe amahanga azo kumvira.
Donc ici il est dit au verset 10 que de Juda,
kumurongo w'icumi ngo muri Yuda,
de la tribu de Juda,
mu mujyango wa Yuda,
ne s'écartera pas donc le sceptre, c'est-à-dire le bâton de commandement, la royauté.
Ngo icumu ry'ubugabe ntirizo uva ko uwo mujyango.
Ça c'était vraiment une prophétie incroyable.
Ubu n'ubuvugishwa budasanzwe.
Et ensuite il dira, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, ça c'est ma traduction, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alors, ce mot Shiloh, vous savez qu'il y a une très jolie chanson du groupe Gaël qui a chanté
Shiloh.
Et ce terme Shiloh, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire celui à qui appartient, ou en fait celui qui est le propriétaire. Et en fait, ici, ce passage est une prophétie messianique. En fait, il est clairement dit que le sceptre, l'autorité royale, ne s'éloignera point de Judas, donc de la lignée de Judas. Et jusqu'à ce que vienne, quoi, ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire celui qui est le propriétaire. Et les théologiens s'accordent bien sûr à dire que c'était une prophétie sur Christ, qui descendrait de la tribu de Judas et qui viendrait, lui le propriétaire, pour que les peuples lui obéissent, il soumettra les peuples. Et c'est pour ça, entre autres, que Jean reçoit dans l'Apocalypse cette expression de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Celui qui descendait de Judas. Et la Bible est très claire. Dans Hébreux chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit clairement, il est dit, il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce.
Baravuga ngo Yesu umwami yavuye mu muryango wa Yuda aho Mose atigeze atanga ibikorwa mu rusengero.
Jésus était de la tribu de Juda.
Yesu yavuye mu ruvyaro rw'umuryango wa Yuda.
Il est le lion, le roi.
Ni intambwe.
Le roi.
Intambwe.
Qui a le sceptre dans ses mains, c'est-à-dire l'autorité royale.
Afisi cumu ry'ubugabe inkoni yo kuganza.
Et il viendra.
Azoza. Yaraje.
Nous il est venu.
Yaraje.
Pour Jacob, il viendra, c'était une prophétie messianique.
Kuri bo kuri Yakobo yabona rubuvugishwa azoza.
Mais c'est lui le propriétaire, le Shiloh.
Ariko niwe nyene vyo, niwe
celui qui est le propriétaire.
Niwe nyene vyo.
Qui viendra.
Azoza.
Et qui rétablira son autorité.
Hamasubizeho inganji yiwe.
Sur les peuples.
Kumahanga yose.
Ça veut dire qu'il soumettra les peuples.
Acisha bugufi amahanga yose.
Et c'est exactement ce que Jésus.
Ibi nivyo rero Yesu.
Est venu faire.
Yaje gukora.
Et accomplira pleinement.
Kandi azoshitsa neza.
Le jour où justement la tribulation va commencer.
Umunsi igihe cyihamwa kizotangura.
Ce travail va se faire.
Iki gikorwa niho kizotangura kuba.
Et il s'achèvera à la fin de la tribulation.
Kirangire mu gihe cimpera yihamwa.
Et c'est pour ça que ici Jean reçoit dans Apocalypse 5.
Alors tu vois là Yohana yerekwa mu byashuru Yohana gice cha 5.
Cette expression justement.
Il y jambo
que seulement le lion, voici le lion verset 5 de la tribu de Juda.
Go intambwe mu muryango wa Yuda, ngo intambwe mu muryango wa
Yuda. Ensuite, il est parlé du rejeton de David. Et ça, c'est aussi une expression qu'on retrouve bien des fois dans l'Ancien Testament. Cette racine qui vient de David. C'est vraiment incroyable de voir comment Dieu est fidèle.
À
ses promesses. Franchement, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu des personnages qui ont été des personnages clés, charnières, marquants.
Vous
voyez, Abraham, par exemple.
Hari Abraham.
Ça a été un personnage absolument incroyablement marquant pour l'Ancien Testament. Pourtant, Abraham n'était pas un grand prédicateur. Il n'a pas fait d'église. Abraham n'a pas guéri les malades. Mais Abraham a été un instrument dans les mains de Dieu et a reçu les plus grandes promesses qu'aucun homme dans l'histoire de l'humanité n'a reçues. Un personnage aussi très charnière, c'est qui? C'est David. David a reçu des promesses de royauté pour l'éternité. Mais ses fils, sa descendance, ses fils, petits-fils, etc., n'ont pas honoré les promesses du Père. Et Dieu a dû écarter pendant un temps la royauté. Il y a eu le schisme. C'est-à-dire qu'Israël s'est coupé en deux. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous avez un roi sur le nord, qui est le royaume d'Israël. Et une seule tribu, le sud. Où il y a aussi un roi, c'est les rois de Juda. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus de rois. En Israël. Plus de rois qui vont être oints par Dieu. La royauté a duré un peu plus de 4 siècles. C'est peu par rapport à ce que Dieu voulait faire. Mais il y a eu un roi, le roi des rois, qui est venu de la tribu de
Judas,
descendant de David, qui lui régnera pour l'éternité.
Vous
voyez, quand Dieu promet quelque chose, c'est incroyable comment il va réaliser les choses. Et c'est très particulier entre Abraham, qui va recevoir des promesses pour sa descendance dans le naturel, mais aussi il va avoir une descendance spirituelle, c'est nous. qui avons le même type de foi que lui, nous qui avons cru sans avoir vu, et David qui a été obéissant, qui avait un cœur selon Dieu, où Dieu a promis qu'au travers de sa descendance il y aurait un règne éternel, le lion de la tribu de Juda. Ceci résume ce terme, le rejeton de David. Voyez, on a vraiment ces expressions ici qui sont les racines mêmes d'où vient le Messie. Et nous avons cru grâce à ces personnages qui, eux, ont joué un rôle clé. Rappelez-vous, la Bible nous dit le salut vient des Juifs. Ce peuple a vraiment fait de graves erreurs. Mais Dieu a mis une racine quelque part. De cette racine a poussé le Messie. Au niveau de la chair, dans le naturel, au travers de la descendance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la grâce d'aller au ciel. Et nous avons cru que son nom soit béni pour l'éternité. Alors cette expression, le rejeton de David, la racine de David littéralement, on la retrouve par exemple dans Isaïe 11, versets 1 et verset 10. Isaïe 11, versets 1 et verset 10. Vous allez beaucoup la retrouver dans le prophète Isaïe. Il y a plusieurs références. On va juste en lire deux. Et il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau, c'est juste une petite branche. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et là, c'est pareil, c'est une prophétie sur le Messie. Verset 10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe. Isaïe, rappelez-vous, c'était le père de David. Sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire de sa demeure. Donc c'est clair ici, l'un des anciens me dit, verset 5, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre des sept sceaux. Donc c'est lui qui a reçu l'autorité du propriétaire de l'univers, du Père. Il a reçu l'autorité pour ouvrir les sceaux. Au verset 6, il est dit, d'Apocalypse 5, « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, les chérubins, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. »
Gombona hagati ya ntebe na bya binyabugingo bine no hagati yaba bakuru umwagazi w'intama ahagaze asa nuwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi nivyo mpuye mu ndwi z'Imana zatumwe kwamazija mwisi yose.
Alors évidemment nous sommes très familiers avec l'agneau.
Ibi nibaza ko tubimenyereye iby'umwagazi turamenyereye kuvyumva.
L'agneau sans défaut qui a été immolé.
Umwagazi w'intama atigeze agira.
C'est vraiment aussi le témoignage dans le ciel.
Icaha yabambwe n'intahe mwijuru.
De Christ.
Ya Kristo.
Et là Jean voit un agneau.
Arero Yohana abona
umwagazi. Au milieu du trône.
Ngo ahagaze kuri ya ntebe.
Nous savons que c'est Christ.
Ngo hagati ya ntebe woni Kristo.
Qui est symbolisé par cet agneau.
Nous
savons toutes les images de l'Ancien Testament.
Le sacrifice, l'agneau
sans défaut, l'agneau pascal.
Et puis
dans le Nouveau Testament, nous savons que Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Mais là, Jean-Baptiste reçoit une révélation. On va regarder Jean, chapitre 1, versets 29 et 36.
Jean 1,
29 et 36. Là, Jean-Baptiste va recevoir une révélation extraordinaire. Le lendemain, donc ça c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et dit, Voici l'agneau de Dieu, mais regardez la révélation qui ôte le péché du monde.
Verset 29.
C'était une pure révélation qu'il a reçue ici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Exactement ce que Ésaïe avait prophétisé 700 ans plus tôt. Qu'il a été amené comme un agneau innocent, comme un agneau qu'on mène à la boucherie,
qu'on égorge, qu'on tue.
Ensuite, verset 36.
«
Ayant regardé Jésus qui passait, » ça c'est encore Jean-Baptiste, il dit « voici l'agneau de Dieu. » Révélation prophétique. Donc Jean voit Christ au milieu du trône, sous une forme d'agneau. Et la Bible nous dit qu'il avait 7 cornes. Alors, les cornes, c'est un symbole très particulier. Quand vous entendez parler des cornes, parce qu'on verra aussi la bête avec 10 cornes, on verra aussi à un moment des cornes qui vont se lever.
Et
des cornes qui vont écraser d'autres cornes. Et en fait, les cornes, quand il s'agit donc de la fin des temps, c'est toujours un symbole. C'est un symbole, ni plus ni moins, de quoi ? De la domination. À la fois politique, économique et sociale. Donc c'est toujours ce que ça veut dire quand il s'agit de prophétie sur la fin des temps, bien sûr. Donc par exemple, pour le Nouveau Testament, les fois où on va voir des cornes, dans le domaine des prophéties de l'Ancien Testament, ce sera soit un symbole de Christ qui a de la domination, ou soit un symbole entre autres de la bête ou de nations qui vont se lever contre d'autres nations. Voilà ce que symbolisent réellement les cornes quand on parle d'Ancien Testament. Nouveau Testament, excusez-moi. Par exemple, dans Daniel 7, eh bien, vous allez voir, on va juste lire ce passage à partir du verset 7. Et là aussi, dans l'Ancien Testament, quand il s'agit de prophétie eschatologique, c'est-à-dire de la fin des temps, c'est la même chose, ça va parler de domination. Donc, Ancien et Nouveau Testament, on se retrouve à peu près, quand vous voyez les mots, le mot corne au pluriel, entre autres, pas seulement singulier et pluriel, c'est toujours un aspect de domination sur les autres. Là, c'est Daniel 7. On reviendra sur cette prophétie de Daniel 7. C'est juste pour vous donner un exemple aussi dans l'Ancien Testament. Il est dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait 4 grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes.
Ngo hanyuma yivyo muvyo neretswe mwijoro ngira ntambona igikoko cha kane giteye ubwoba cy'ubuyobe kandi cinkomeza inyinshi cyari gifise imihaha minini y'ivyuma kiratabagura kirajanjanga ibisigaye kibisiribangisha amajanja yacu cyari gifise itandukaniro n'ibindi bikoko byose byacitangiye imbere kandi cyari gifise amahembe 10.
On va lire le verset
8.
Et au verset 8, il est dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance.
Ngo nitegereje ayo mahembe bona muri yo hameze hameze akandi gahembe gatoye imbere yako hakugwa amahembe atatu mu yarasanzwe hari maze ako gahembe nkabona kwa maso asa nayo umuntu nakanwa kavuga ibihambaye cyangwa iby'ubwibone.
Donc ici, bon, nous verrons que ça correspond effectivement à l'Antichrist.
Ah, tu vois, on a vu l'Antichrist.
Et au, comment le gouvernement mondial va se mettre en place.
N'ingénéreta, muzamaku,
gizokora. On reviendra. Cette bête effrayante, c'est l'Empire romain qui va être reconstitué.
Iki giko kongo giteugo wachubu yobe nubgami bgabaroma buzosubira kuja hamwe.
Mais en fait, vous voyez ici, il parlait de cornes.
Une
bête effrayante, 10 cornes, 10 nations.
Igikoko giteye ubwoba cy'amahembe 10.
Donc il y a un pouvoir politique, social et économique.
Hazoba rero ibihugu bifise ububasha mu bya politique, mu by'imibano no mu
by'ubutunzi. Après on voit 3 cornes et puis 1 corne.
Hanyuma bagaca bavuga ngo amahembe atatu
hamwe. C'est toujours une nation qui prend le dessus, qui écrase les autres.
Urumva habonekamo igihugu kiduga kikaganza ibindi byose.
Ça c'est du côté négatif.
Ahani mu bijanye n'ibibi.
Bien sûr, Christ. Pour revenir au chapitre 5 d'Apocalypse, il est dit donc qu'il avait 7 cornes. L'agneau avait 7 cornes, représentant Jésus. Et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous l'avons, les 7 facettes de l'Esprit de Dieu, nous avons déjà étudié cela. Au verset 7, il est dit que l'agneau va recevoir. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc on voit le Fils recevoir du Père le livre. Transfert d'autorité ici pour pouvoir exécuter les jugements. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et là, il va y avoir une réaction céleste absolument extraordinaire. Il est parlé donc à partir du verset 8. Quand il reçut le livre, donc l'agneau, donc Jésus, le Fils reçoit le livre du Père. Les 4 êtres vivants, rappelez-vous les chérubins, et les 24 anciens, rappelez-vous qu'ils étaient, se prosternaient littéralement, se jetèrent aux pieds de l'agneau. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints.
Inanga bose ninzabya zizahabu zuzuye mibavu niyo gusenga kwabera.
Tout ça on verra, frères et sœurs, je vous le rappelle, vous allez voir ces choses, nous allons voir ces choses.
Bene data ibi byose byanditswe ngaha tuzobibona.
On verra cette scène céleste.
Ibi byose bavuga ngaha tuzobibona biba mwijuru.
Cette question qui est posée par l'ange puissant.
Ikibazo kibajijwe n'umumara
kakomeye. Qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux.
Gombega nindabere kugurura igitabo no kumatanura.
On entendra ce grand silence.
Maze ngo haboneka gacerere.
Et d'un seul coup l'agneau. Le lion de la tribu du
Juda.
Qui va être nommé pour pouvoir ouvrir le livre. Enlever les 7 sceaux. Nous le verrons, frères et sœurs, de nos propres yeux. Nous entendrons ces paroles. Elles sont prophétisées d'avance. Et tu diras peut-être à ton voisin, mais c'est écrit où ça? Tu n'as jamais lu l'Apocalypse. Nous serons témoins de ces scènes-là. Nous serons témoins quand Jésus va recevoir, l'agneau va recevoir le livre du Père sur le trône. Nous verrons ces choses. Et nous serons parmi ceux qui allons acclamer. Là, on voit quelque chose. On voit que les chérubins et les 24 anciens, ils ont un instrument de musique. Et on voit que là, il y a quelque chose. Vous savez, dans le ciel, la louange et l'adoration, c'est quelque chose qui se produit tout le temps. Je
ne
dis pas 24 heures sur 24, parce que quand on commence à parler d'heures, on parle de limitation terrestre. Je vous rappelle que l'espace et le temps, Dieu nous les a donnés pour nous limiter, nous les hommes. La dimension du monde physique
est
limité par l'espace-temps.
Ce qui
n'est pas le cas du monde spirituel.
Et
en fait, ici, on voit que dans plusieurs passages de l'Apocalypse, entre
autres,
au ciel, il y a la célébration de louange et d'adoration constamment. Et là, la Bible nous dit qu'ils avaient des harpes. Alors c'est marrant parce que ce mot en grec, c'est le mot kitaras. Et ça a donné le mot guitare, bien sûr. Et en fait, c'était la harpe était un instrument qui n'est plus ni moins, ça existe toujours d'ailleurs, c'est avec des cordes. Et il y a une sorte de caisse de résonance.
Et
qui permet donc de créer le son, bien évidemment, et de faire résonner le son. Donc la Bible aussi nous révèle qu'il y a des coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Vous savez, souvent, les gens, quand ils prient, n'ont pas la révélation ni l'incidence que cela peut avoir au ciel.
Vous
savez, nos prières, quand elles sont faites dans la foi, quand elles sont faites sur une base biblique, quand c'est un enfant de Dieu né de nouveau, qui a le droit à l'accès à la présence de Dieu. Au ciel, cette prière est reçue. La Bible nous montre ici
que
ce sont les prières des saints. Les prières des saints qui sont dans des coupes. À être prête à être présentée devant le trône de Dieu. C'est ce que la Bible nous révèle ici. Et la Bible dit aussi que dans le ciel, ils chantent. Louange et adoration. D'ailleurs, ce sont les seules prières qui resteront. Quand tu seras au ciel, tu n'auras plus besoin d'exercer ta foi. Parce que tu connaîtras comme tu as été connu. Tu n'auras pas besoin de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Parce que ces choses-là seront instantanées dans ton esprit. Tu n'auras plus besoin de foi. De proclamer la parole de Dieu contre tes circonstances. Parce que d'abord, il n'y aura pas de mauvaises circonstances. Tu n'auras plus besoin de soumettre tes circonstances. Parce qu'au ciel, tout est parfaitement en harmonie avec la gloire de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de péché. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de manque. Au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Au ciel, il n'y a pas d'incompréhension. Il n'y a pas de confusion. Il
n'y
a pas de peur. Il n'y a que de la gloire. Il
n'y
a que de la gloire là-haut. Ah, quand nous allons y aller, frères et sœurs.
Tout à fait, Kawazé.
Ça va être extraordinaire.
Hein?
Au verset 9, il chantait un cantique nouveau, par l'esprit, bien sûr. En disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les
seaux.
Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce que c'est toi qui as été immolé, c'est toi qui as été sacrifié. C'est toi, Seigneur, qui as racheté pour Dieu, pour le Père, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Nous avions vu déjà cette déclaration pour Dieu, pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous avions vu cet aspect de royaume et de sacrificateur dans l'Apocalypse chapitre 5 chapitre 1 pardon excusez-moi chapitre 1 versets 5 et 6, c'est le parallèle que vous avez dans vos Bibles. Et en fait, l'univers entier est en train de proclamer que c'est Jésus qui est digne d'avoir le livre et d'en ouvrir les
sceaux.
Parce que c'est lui qui a été sacrifié. C'est lui qui s'est donné comme un agneau. C'est lui qui a versé son sang. C'est lui qui a racheté des hommes. Non pas une certaine catégorie d'hommes. D'une certaine couleur, d'une certaine race, d'une certaine ethnie, d'une certaine tribu. Mais de tout langue, de tout peuple. Comme disait un homme de Dieu, Dieu est un Dieu multicolore. Et Dieu accepte tous ceux qui veulent l'aimer et le servir. Et au travers du sang de Jésus. C'est pour ça que nous sommes un peuple qu'il se forme. Frères, nous sommes en train d'être des acteurs de la création du royaume invisible. À chaque fois qu'une âme vient dans le royaume, parce que
tu
as prié pour lui, parce que peut-être tu l'as parlé du Seigneur, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, ou il y en a un qui a prié, l'autre qui a parlé du Seigneur, l'autre qui l'a amené peut-être à l'église ou à entendre l'évangile, etc., etc. Chacun, nous avons un rôle. Et nous sommes en train de créer un royaume éternel. C'est ce royaume qui dominera sur tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Qui sera le royaume éternel qui va régner avec Christ. C'est ce que nous sommes en train de faire. Chaque fois qu'une âme est ajoutée au royaume de Dieu, chaque fois que tu pries pour quelqu'un, chaque fois que tu agis dans le royaume, tu es en train de construire quelque chose. Quand tu es en train d'édifier les gens, de les aider pour le Seigneur, tu es en train de construire le royaume. Tu es en train de construire le royaume. Nous construisons un royaume qui n'est pas visible avec nos yeux, mais qui est ce royaume qui va dominer sur toute la terre. Quand nous regardons cette vision et que nous mettons en parallèle Daniel chapitre 7, à partir du verset 13, c'est vraiment un parallèle avec l'Apocalypse 5. Daniel 7, 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur des nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination et la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit.
Kandi muvyo neretswe mu ijoro nagize ntya mbona haje usa n'umwana w'umuntu azananye n'ibicu byo kwijuru aza kuri wa wundi wa mbere na mbere baramumushikiriza acahabwa inganje n'icubahiro n'ubwami kugira ngo amoko yose n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe bamusabe bamusenge ingoma yiwe ni ingoma itazovaho kandi ubwami bwiwe no bwami butazohangura.
Ça ressemble fort à l'Apocalypse 5 vers la fin que nous sommes en train de lire. Revenons sur l'Apocalypse 5. Vraiment, voyez la parole de Dieu comme le livre d'un royaume qui a été perdu par la faute de l'homme, mais qui est restauré par Dieu le Fils et qui va être instauré pour l'éternité. C'est exactement ce que nous faisons. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu seulement pour que le péché soit pardonné.
Yesu ntiyaje kugira ngo duharigwe ibyaha gusa.
Ça c'est une des choses qu'il a faites.
Icyo ni kimwe mu bintu byinshi Yesu yakoze.
Qui est la clé de la porte principale.
Kandi ni rwo rufunguruzo rw'umujyango mukuru wo kwinjira.
Mais l'objectif de Jésus.
Ariko intumbero ya Yesu.
C'était que nous puissions naître dans le royaume.
Nuko twese twinjira mu bwami.
Pour que son royaume.
Kugira ngo ubwami bwiwe.
Qu'il se crée un peuple et que son royaume.
Muri ubwo bwami yironke rihanga
kandi. Puisse être restauré et finalement instauré.
Ubwo bwami unagugwe hanyuma bwubakwe.
À la fin de ce verset, du verset 10 de, d'Apocalypse 5, il est dit « Et ils régneront sur la terre. » Je tiens à cette expression parce que cette expression va nous poursuivre tout le long de l'Apocalypse. L'enjeu de Dieu
sur,
dans l'univers,
Mumajuru, change mwisiyose,
c'est la terre.
Mubikikuje isi yose, ikimana iraba ni isi.
Je vous assure, dans cet univers, il y a des planètes partout.
Muri ki kirere turimwo haramasi
imana. Il y a des étoiles.
Ni hariya mu kirere hariya manyenyeri.
La terre est toute petite par rapport à tout le reste de l'univers.
Iyisi turiko nakantu gato cyane urahabye ngene haramanyenyeri namasi yandi menshi.
Mais tout
ariko byose
se passe ici
bikorekera kuri aka gasi turiko.
L'enjeu
no kuvuga ngo ibikoreka byose
c'est ici
na turi
sur cette terre
kuri yisi turiko.
Le reste c'est joli, c'est de la décoration.
Ibisigaye ni byiza ariko nibyo kushariza gusa.
Tout l'enjeu est ici sur la terre.
Ibikoreka byose intambara zose naha
tout
byose.
C'est là où Dieu viendra instaurer pour l'éternité son royaume.
Niho imana izoza kunagura ubwami bwayo.
L'extension du troisième ciel se fera ici sur cette terre.
Ukubandanya ukwagura ubwami bw'ijuru bizobandaniriza kuri ino si ituriko.
Nous allons clôturer du verset 11 au verset 14.
Reka turangirize kuri 11 gushika kuri 14.
Il dit: je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers.
Ngo ndaraba numva ijwi ry'abamarayika benshi bakikije ya ntebe na bya binyabugingo n'ababakuru. Igitigiri cyabo cyari amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi.
Alors, qu'est-ce que c'est que des milliers de milliers? Des milliers de milliers, ça fait des millions, non?
Bega, amasinzi n'amasinzi n'amamiliyoni n'ibihumbi n'ibihumbi ni benshi nyine.
Et là, la Bible nous dit qu'il y a des millions de millions de millions d'anges.
Bivuga ngo amasinzi n'amasinzi n'ibihumbi n'ibihumbi.
Ça fait combien tout ça?
Bega, bo bose ni bangahe?
Ça fait beaucoup d'anges.
Ni benshi cyane.
Les gens sont extrêmement nombreux.
Ni benshi cyane.
Ils sont vraiment extrêmement nombreux.
Ni benshi gose.
Rappelez-vous, vous avez un ange gardien.
Wibuke rega ko nawe ufise umumarayika mugendana.
Il y a des anges dans le ciel.
Hari abamarayika mu ijuru.
Au troisième ciel.
Ya gatatu mu ijuru rya
gatatu. Il y en a au deuxième ciel.
Hari abandi mu ijuru rya kabiri.
Il y en a aussi autour du premier ciel.
Naha ku isi muri iki kirere hari abamarayika.
Les anges sont extrêmement nombreux.
Ni benshi cyane.
Et là, il disait d'une voix forte, l'agneau, verset 12, qui a été immolé, est digne. C'était un accord parfait, l'univers est dans un accord parfait. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et au verset 13, il va y avoir quelque chose qui va être parlé et qui va se réaliser. Parce que ça, c'est prophétique. C'est prophétique clairement pour le règne de Jésus. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité.
Ngo kandi icyaremwe cyose cyo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose numva bivuga biti byagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'intama umugisha ubu wabo n'icubahiro no guhimbazwa n'ububasha ibihe bitazoshira.
Et cela va nous amener à ce que Paul avait reçu dans Philippiens chapitre 2.
Ibi bitwibutsa ibyo Paulo yabonye mu Bifilipi gice cya kabiri umurongo wa kabiri.
Chapitre 2 Philippiens.
Abi Filipi kabiri umurongo wa kabiri.
Verset 9.
Umurongo hamwe n'umurongo w'icenda.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il est parlé de Jésus, bien sûr. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue, regardez bien ici, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Baravuga ku murongo w'icyenda ngo nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane. Ikamuhajya zina rirenge yandi mazina yose kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu. Ayivyo mwijuru na ivyo mwinsi na ivyi kuzimu kandi ndimi zose zizature ko Yesu ari Kristo uhoraho ngo biheshe Imana data wa twese icubahiro.
Je vais vous dire quelque chose.
Reka mbabwire iki kintu.
Tout genou.
Amavi yose
se courbera devant le créateur des cieux et de la terre.
Azoca bugufi apfukame imbere y'umuremyi w'inosi.
Toute langue
indimi zose
confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
Zizokwatura yuko Yesu Kristo ari umwami.
Toi, tu as fléchi le genou volontairement devant le Seigneur.
Wewe warapfukamye uvyishakiye imbere y'Imana.
Tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur.
Waremeye uriyaturira ko Yesu Kristo ari umwami wawe.
Tu l'as fait volontairement.
Warabikoze uvyigombeye.
Parce qu'un jour, tu réalisais que tu étais pécheur. Tu as réalisé ta misère. Tu as réalisé que tu avais besoin de Dieu. Tu t'es repenti et tu as donné ta vie à Jésus. Mais il y a un jour où ceux qui ne l'ont pas fait de gré, volontairement, se courberont et seront obligés de le faire. Le pire des pécheurs sera obligé de se courber devant Dieu. Nous le verrons, frères et sœurs. Toute langue, qu'elle l'ait voulu tant qu'elle était dans son corps, c'est-à-dire nous les sauver, ou ceux qui ont été les pires ennemis de Dieu sur cette terre, seront obligés de dire
Jésus
est Seigneur. Mais ils seront obligés, eux. Et ils iront dans la damnation éternelle. Nous verrons que ce sera la seconde mort. Mais Dieu viendra. Jésus reviendra comme un conquérant. Et nous allons voir comment il va mettre entre guillemets ses pions sur l'échiquier et faire au diable et au système de ce monde échec et mat. Et que ce sera la fin de toutes choses, des systèmes de ce monde. Et nous parlerons de notre espérance, parce que Dieu a des choses extraordinaires pour nous. Et c'est lui qui va les mettre en place. C'est pourquoi nous devons toujours penser que nous avons du travail sur cette terre. Ne vous découragez jamais. Persévérez. Laissez vos problèmes de côté.
Dominez
sur vos problèmes. Allez de l'avant, parce que nous sommes en train de créer ce royaume éternel qui dominera partout. Et à cette tête, il y aura Jésus notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté. Et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email msburundi@yahoo.fr.